CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour, bonjour et merci d'être là dans ce MAG du pays Midi-Quercy. Aujourd'hui dans la chronique Les circuits courts, bonjour. Une formation en sécurité alimentaire à destination des élus a eu lieu au sein du PETR sur le lien ancestral qu'il y a entre l'alimentation et la sécurité. Un reportage et des témoignages de ces élus qui ont participé à cette formation. Mais avant ça, un peu de nouvelles de notre programme européen Leader en pays Midi-Quercy. Première partie de ces MAG du pays Midi-Quercy à propos du programme européen Leader avec son animatrice au sein du PETR, Émilie Plassard. Bonjour.
Bonjour Lisa.
Il y a eu un comité de pilotage qui a eu le 27 mai dernier avec la présentation de plusieurs projets sollicitant ces subventions au programme européen Leader. On peut peut-être commencer déjà par rappeler qu'est-ce que c'est.
Oui, le programme européen Leader, donc c'est des subventions qui viennent de l'Europe en fait, et sur un programme un peu plus large qui s'appelle le FEADER, et où on a possibilité, en fait, on a une enveloppe au niveau du PETR, du pays Midi-Quercy, donc du GAL, c'est le groupe d'action locale, une enveloppe de 2 600 000 euros qui nous permet de financer des projets privés ou publics sur le territoire du PETR, du pays Midi-Quercy, pour aller plus sur des actions à la fois d'innovation, de développement durable, de projets de coopération, de choses de ce style.
Voilà. Vous avez déjà utilisé 60% de cette enveloppe qui était à utiliser en je ne sais pas combien de temps.
Oui, alors du coup, c'était le programme 2014-2021, enfin même qui va se terminer en 2022 parce qu'on a, pardon, 2023 parce qu'on a des actions, enfin deux années de transition en plus parce que le programme a pris un peu de retard. Et du coup, on a l'Europe et la région qui ont mis des années de transition pour pouvoir finaliser l'enveloppe et aller ensuite sur un nouveau programme.
Ce sont des particuliers, des entreprises, des collectivités qui peuvent proposer son programme européen. Leader, c'est une demande.
Alors, ils demandent de faire financer des actions, enfin, ou des projets qu'ils ont envie de mettre en œuvre. Donc, par exemple, comme tu le disais au dernier programme du 27 mai, il y a plusieurs actions, enfin, plusieurs projets qui ont été soumis au GAL, donc au groupe d'action locale. Donc, ce groupe d'action locale, il est composé de membres privés, de la société civile et de membres publics, c'est-à-dire élus. Qui donne un avis favorable ou défavorable sur des projets pour que ça soit en cohérence avec la stratégie du territoire en fait. Et donc du coup plusieurs projets ont été soumis, donc des privés et publics. Alors par exemple on peut noter comme des privés, il y a la brasserie Le Bélier qui a Saint-Antonin qui a soumis un projet, ou encore des gîtes, les gîtes Loupapagué qui ont soumis un projet à sur Saint-Antonin également. Il y a également privé, le syndicat des vins des Coteaux du Quercy pour un programme de valorisation du vin. Pour les publics, on peut citer l'école de musique à Caussade, ou encore l'animation politique et touristique de la communauté de communes de Quercy-Rouergorge-l'Aveyron, et des programmes aussi au PETR comme la mobilité, le pays d'art et d'histoire, etc. Voilà.
Alors pour avoir accès à cette enveloppe Leader, il faut déjà avoir un cofinancement public.
Oui, en fait, il y a plusieurs. On vient à la fin en fait au niveau du programme européen. C'est-à-dire que pour présenter un dossier, donc en plus d'avoir des actions éligibles à nos fiches actions, il faut également avoir des cofinancements publics. Par exemple, la région, l'État ou une autre collectivité intercommunale ou commune, parce que sinon l'Europe ne peut pas venir en fait. Voilà, donc il faut vraiment avoir des cofinancements publics pour prétendre à des fonds européens.
Vous, Émilie, en tant qu'animatrice Leader, on peut vous contacter déjà si on a une idée, vous proposer de l'aide pour la rédaction du dossier qui est quand même un gros quelque chose.
Un gros morceau. Ouais. Effectivement, nous, on est là avec donc moi et ma collègue, on est là pour accompagner les porteurs de projets pour leurs dossiers administratifs et les accompagner aussi pour qu'ils rentrent bien dans cette stratégie de territoire. Et du coup, ben, ils peuvent, bien sûr, s'ils ont un projet et qu'ils ont des cofinancements, ça c'est le mieux, venir nous contacter au PETR du Pays Midi-Quercy, et nous, on les rencontre et on voit avec eux si leur projet est cohérent avec le programme.
Là, pour le comité de pilotage qui a eu le 27 mai, où vous parliez des personnes qui avaient présenté leur projet, quand est-ce qu'on saura si ça a été accepté, validé, comment ça se passe ?
Du coup, on travaille ensuite, une fois qu'ils ont été présentés au groupe d'action locale, qui émettent un avis. Si l'avis est favorable, du coup, on a ensuite un dossier administratif à monter avec eux. Et puis, on envoie ça à la région, donc le service instructeur de la région, qui instruit le dossier et qui dit oui ou non si vous avez la subvention ou pas. Ensuite, chaque porteur reçoit une convention avec cette subvention. Et normalement, on devrait pouvoir à nouveau mettre en place des comités de programmation comme celui du 27 mai à l'automne 2021.
Les fonds européens leaders, alors c'est beaucoup de travail pour présenter son dossier, mais c'est souvent, c'est pas des peccadilles en termes de budget. Vous avez quand même une grosse enveloppe. Vous pouvez soutenir des projets innovants d'envergure sur le territoire. Là, il reste 40% de l'enveloppe, donc il est encore temps de vous proposer des projets.
Tout à fait. On a encore, on a encore un an pour programmer des dossiers, donc il reste effectivement 40% de cette enveloppe. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter. Voilà, si votre projet est assez bien abouti, pour venir voir s'il peut prétendre ou pas à ces fonds. Et du coup, vous avez, en fait, faut programmer les dossiers avant le 31 octobre 2022. Voilà. Mais ensuite, la finalisation des projets peuvent se faire jusqu'au 31 décembre 2023.
Et on se voit très régulièrement sur cette antenne, Émilie, pour connaître les aboutissements de ces projets.
Oui, on a on essaie de prévoir au moins 3 comités de programmation par an pour valider ces projets et que ça puisse aboutir.
Et voilà. On peut vous contacter dès à présent pour le Pays Midi-Quercy pour proposer nos projets.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Émilie.
Merci.
L'animatrice leader au sein du PETR. À très bientôt.
À très bientôt.
Et la suite de ce mag après la musique, ce sera la chronique Les circuits courts. Bonjour, avec la chargée de mission alimentation en circuit court au sein du PETR, Marie-Agnès Brandy, qui a suivi une formation en sécurité alimentaire à destination des élus. Reportage et témoignage.
Everybody says to me. wish it could last forever. To find my goal, taking in all this misery, but giving it all my soul. Made in heaven, made in heaven. It was all meant to be. Written in the stars. Written in the stars. Written in the stars.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Et la suite de ce MAG du pays Midi-Quercy en mode reportage avec Marie-Agnès Brandy, la chargée mission alimentation et circuit court au sein du PETER, qui proposait une formation en sécurité alimentaire à destination des élus. Elle y a pris son micro.
Les circuits courts, bonjour. Alors aujourd'hui, je sors de la troisième journée de formation organisée par le PETER Pays Midi-Quercy par rapport à l'alimentation et la sécurité alimentaire. Donc nous avons fait intervenir Stéphane Linou, qui est formateur et qu'on avait déjà interviewé au mois de novembre dernier. On a fait intervenir Stéphane Linou, qui est formateur, et sa spécialité c'est la sécurité alimentaire. Alors pas la sécurité sanitaire justement, mais un autre type de sécurité. Et donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Stéphane Linou?
Bonjour, oui, mais c'est la troisième des quatre journées de formation pour élus sur le pays Midi-Quercy. Donc on m'a demandé d'intervenir sur le lien ancestral qu'il y a entre l'alimentation et la sécurité. Pas le volet sécurité concernant les salmonelles ou autres de l'alimentation, mais sur l'hypothèse qu'on pourrait un jour prochain ou autre ne pas avoir accès à cette nourriture parce que nous ne la produisons quasiment plus sur place, nous ne la transformons plus, nous ne la stockons plus non plus, et nous sommes complètement devenus dépendants des transports. Donc nos territoires, même ruraux, sont sous perfusion alimentaire. Et je pars d'un scénario que j'avais d'ailleurs imaginé en 2008 lorsque j'ai lancé le mouvement locavore en France. J'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Et j'avais imaginé une pandémie grippale qui bloque la chaîne des transports. Et la question c'était combien de temps on tiendrait sans se taper dessus, si il y avait un problème justement de transport, sachant que personne ne produit la nourriture à titre individuel, on ne la stocke plus, il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État.
On en a eu un petit aperçu pendant le premier confinement et encore les transports continuaient à rouler.
Oui, on est passé à deux ou trois jours de la catastrophe, puisqu'il y a même un article du Figaro qui raconte comment ça s'est réellement passé avec les entreprises de la grande distribution, quelques jours de plus, et on transformait nos militaires en caissières. Donc en fait, on est passé vraiment très près de la catastrophe. Et en fait, c'est tout simplement le plus vieux sujet du monde, hein, le lien entre l'alimentation et la sécurité. La sécurité au niveau ordre public, en fait, nous ne sommes pas préparés. Et on pense que manger est une affaire réglée, que ça viendra toujours de quelque part, mais c'est complètement faux.
Et donc c'est ce que vous avez expliqué aux élus, et puis après il y a eu un petit... Enfin voilà, parce qu'on peut partir d'un constat, mais après il faut trouver les solutions.
Mais alors, j'ai d'abord démontré que c'est un sujet, démontré qu'en fait il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan de secours, et que les élus avaient le devoir, d'accord, mais aussi la possibilité de prévoir tout ça, de préparer les populations, et notamment de passer par le plan communal de sauvegarde, et y intégrer, comme la commune basque de Biriatou, le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans leur plan communal de sauvegarde. Donc c'est possible.
Donc en tout, il y a eu une vingtaine d'élus du pays Midi-Quercy qui sont venus se former sur ces trois journées. Et également, nous avons eu la compagnie des services de l'État par la DDT, la DRAF, donc DDT Direction des Territoires, et la DRAF Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt. Et puis on a eu aussi le Conseil de Développement du pays Midi-Quercy qui est venu, l'entreprise Barquette et compagnie, l'agence de l'eau, tout à fait, et un représentant du Centre Permanent d'Initiative Environnement. Et c'était donc très intéressant parce que tout le monde s'est rencontré déjà, a pu discuter et imaginer justement des scénarios d'action pour éviter et pour sortir de cette insécurité alimentaire pour le bien de tous. Donc on va les interviewer en sortie de formation pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Donc nous sommes à la sortie de la formation de Monsieur Linou, donc on va demander aux participants qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette formation et est-ce que ça a changé quelque chose pour eux. Donc, bonjour, vous êtes qui ?
Miguel Coulon, je suis élu à Molière, je suis paysan boulanger, donc je produis des céréales, la farine, du blé, des lentilles, petit épeautre, un peu de tout. Mais sur la pénurie alimentaire en cas de crise de force majeure, l'État ne peut pas venir à notre aide, quoi. Donc c'est à nous localement de réagir avec des paysans, installer des futurs paysans, s'il y a plein de départs en retraite, installer du monde pour produire pour des gens à côté de nous localement, quoi.
C'était une prise de conscience un peu cette formation ou c'est quelque chose que déjà vous aviez perçu
Moi je suis en bio depuis 2006, mais mes parents étaient depuis longtemps, enfin depuis 2014, qui sont installés en bio. Enfin, mais on le voit, je fais les marchés, quand il y a eu le Covid, tout le monde survit sur la farine, enfin le pain. Enfin, mais je n'avais pas pensé que l'État, il n'y a pas de stock. Quoi.
Non. Pas de plan B quoi.
Pas de plan B, voilà.
Donc faut le faire localement ?
Oui, le retour localisé, je pense, de chaque commune, installer des jeunes, quoi. Ça manque.
Merci, Monsieur Coulon.
Oui, c'est moi.
Bonsoir, vous êtes qui ?
Un élu de la commune de Caussade, Pedro Rodriguez. Je suis délégué à la sécurité sûreté.
Et donc, vous êtes inscrit à cette formation de Monsieur Linou, ça vous interpellait la sécurité par rapport à l'alimentation ?
Oui, parce que la sécurité par rapport à l'alimentation est un thème qui n'est pas connu. En fait, il existe de nombreux plans de sécurité, blancs, rouges, on les connaît tous, hein, mais il n'en existe pas dans le domaine de l'alimentation. C'est pour ça que lorsque j'ai vu le thème sur le sujet de cette formation, j'ai immédiatement répondu favorablement.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, est-ce que Sarah, vous imaginiez tout ce qui a pu être dit ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris vraiment aujourd'hui ?
Non, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, tout d'abord, le formateur est très bon. C'est un des points qui m'a fait venir également à cette formation parce que il a quand même suivi des stages de haut niveau au niveau parisien. Il a écrit un livre sur le sujet, donc j'ai senti entre le thème et l'orateur que nous aurions forcément une formation de qualité. Maintenant, dans le domaine de l'alimentation, il nous a fait prendre conscience à tous, et moi en particulier, de cette problématique.
Bonsoir, vous êtes qui ?
Alors, Yolaine Van Raet, je suis de Saint-Antonin.
Donc, vous êtes venue à la formation de Monsieur Linon. Expliquez-nous.
Alors, je suis venue pour le CPIE, pour écouter, participer et puis transmettre un peu tout ce qui s'est dit, activer la réflexion et peut-être les projets.
Vous, quand vous êtes venue à cette formation, vous vous attendiez au contenu ou vous avez découvert des choses ?
Le contenu un peu, j'étais à Beauregard, donc j'avais entendu Stéphane Linou, j'avais entendu Alexandre Boisson et Arthur Keller, donc qui étaient plus sur l'axe effondrement. Là, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect, prendre un peu ces signes de société, ce qu'on vit sous l'axe sécuritaire. La relocalisation, enfin trouver un objet pour relocaliser la production qui soit sous l'axe sécuritaire parce que faire bouger les choses c'est pas évident, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui parle aux gens, qui pourrait parler aux gens, voilà.
Donc maintenant il faut mettre un plan d'action.
Le plan d'action, on est déjà un petit collectif de gens qui réfléchissons sur un projet de relocalisation de la production autour du village de Saint-Antonin, parce que la bonne volonté existe, mais c'est vrai que des producteurs, il n'y en a pas tellement, en fait, producteurs bio. C'est un peu ce dont tout le monde, ce que tout le monde exprime. Donc aider à l'installation de producteurs, déjà, ça serait une belle chose.
Ouais, un bon départ.
Voilà, un bon départ.
Merci. Bonsoir. Alors, vous êtes qui ?
Ah, je suis Nathalie Rey. Je suis élue à la COSAD et je suis dans la vie coach d'entreprise.
Donc, vous sortez là juste à l'instant de la formation de Monsieur Linon sur la sécurité alimentaire. Mmh. C'est quelque chose qui vous a interpellé au départ ?
Alors, je pense qu'en tout bon citoyen, citoyenne que nous sommes, c'est important de se renseigner sur les risques autour de ça. Et effectivement, l'approche est très intéressante et très édifiante et aussi constructive dans ce qu'on peut en faire.
Il y a des choses qui vous ont fait peur ?
Déjà, on prend un risque en vivant, donc... donc, bon, oui, bien sûr, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Surtout pour nos enfants.
C'est quoi qui est inquiétant, là ?
C'est quand on a les statistiques et quand on voit les courbes et qu'on voit que nous avons beaucoup consommé sans trop faire attention aux ressources. Et on a considéré la terre comme une ressource et pas comme notre maison, en fait. Voilà. On a été plus prédateurs que gardien.
Alors, il y a des solutions ?
Déjà, notre action, c'est la seule qui nous reste maintenant. Là, il faut agir. Et il faut agir. Alors, j'ai bien aimé l'image qu'il nous a faite en nous disant, il faut agrandir l'épaisseur du matelas quand on va tomber, parce que de toute façon, on va tomber. Et en agissant en plus sur certaines options, on peut aussi ralentir la chute, c'est-à-dire diminuer l'ampleur de la chute. Donc c'est une conscience et par contre, il y a beaucoup de travail.
Et alors, par exemple, sur quoi on pourrait agir si, comme ça, là, à froid ou à chaud, je ne sais pas.
Tout ce qui est autour de la sécurité alimentaire, donc c'était le sujet, effectivement, c'est prendre en considération et prendre en conscience qu'il n'y a rien de fait pour sécuriser l'alimentation dans notre périmètre direct. On est complètement dépendant des approvisionnements extérieurs. Donc ça veut dire que déjà, il faudrait qu'on re-identifie notre territoire avec une alimentation de proximité. Ne serait-ce que ça, déjà, ce serait pas mal.
Du bon sens, déjà.
Complètement, mais la politique devrait être du bon sens.
C'était les circuits courts. Bonjour au micro de Marie-Agnès Brandy, la chargée mission alimentation et circuits courts au sein du PETR, à retrouver sur le site internet cfmradio.fr, rubrique les circuits courts. Bonjour. Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.